Donc, on commence notre étude. On est dans le 13e chapitre de l'Épître aux Hébreux. On avait dit que les trois derniers chapitres, 11, 12 et 13, c'est le 11, c'est la foi, 12, c'est l'espérance, puis le 13, c'est l'amour. Qu'on voit ici, l'amour dans lequel on vit, qu'on a expérimenté avec le Seigneur. C'est qu'on va commencer avec la lecture à partir du verset 1 de Hébreux 13. Chapitre 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont, pardon, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frère, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints, ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole. On va demander son aide avant de commencer cette étude. Seigneur, notre Dieu, on te remercie encore une fois pour ta parole. Elle est tellement riche, tellement profonde, notre Dieu, mais on veut en tirer des leçons qui vont nous aider à te plaire, Seigneur, à marcher, parce que toi, tu t'es donné toi-même pour nous. Et nous, Seigneur, en retour, on veut offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Merci encore une fois, notre Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour tous ceux qui sont là ce soir. On te demande que tu connais les besoins de chacun, Seigneur, que tu puisses bénir chacun au nom précieux de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on avait dit que l'amour, ça va être le thème de l'environnement dans lequel on va vivre pour l'éternité. Ça, c'est merveilleux. On avait parlé de les temps qu'on vit présentement sont des temps difficiles parce que c'est les temps sont. Vraiment, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'égoïsme. C'est d'être centré sur soi-même. Mais l'amour dans l'éternité, ça va faire en sorte qu'on va être centré sur le Seigneur Jésus. Puis centré sur les autres, pour chercher le bien des autres avant de chercher notre propre bien. C'est ça qui est l'amour ici, c'est comme ça qu'on définit l'amour. Comme on avait dit, l'amour, là, ça, on l'a appris du Seigneur. On a appris à aimer quand on a connu l'amour que le Seigneur a eu pour nous autres. Puis cet amour-là, ici, c'est de premièrement avoir l'amour pour le Seigneur. Puis c'est ça qui est le premier amour. Hein, quand il nous dit qu'on a perdu notre premier amour, ben c'est l'amour, c'est la priorité dans nos affections pour le Seigneur Jésus. Puis ensuite de ça, pour les uns et les autres, puis ensuite de ça, pour les gens du monde qu'on aime pour les voir sauvés. C'est ce qu'on voit. Dans Romains 5, au verset 5, il nous dit ici, Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'amour, c'est vraiment le motif le plus puissant. Quand on parle d'amour, là, c'est le motif le plus puissant. L'amour va pousser quelqu'un à agir au-delà de ce que n'importe quoi d'autre peut le pousser à agir. Ça, comme on dit des fois, l'amour est plus fort que la police. Puis l'amour, ça. Puis Renaud, il parlait que j'avais traversé le parc à pied. Disons que ça va plus vite en auto, là, mais un soir, je pense que j'avais connu Denise, qui est devenue ma femme, puis je voulais la voir, je voulais pas attendre au lendemain, c'est que j'ai marché toute la nuit dans le parc pour la voir le plus tôt possible. Mais c'est 144 km là, à traverser. Mais c'est ça, l'amour, c'est un grand motif. C'est ça que le Seigneur recherche en nous. Il recherche l'amour. Le Seigneur ne nous fait pas marcher par la crainte. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Puis les religions, des fois, ils essaient de nous faire peur. Puis la peur du jugement ne produira jamais le même effet que l'amour de celui qui nous a aimés. Comme Paul disait, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour lui. Puis si on regarde la vie de Paul, là, la vie de Paul était vraiment une vie qui était remplie d'amour pour le Seigneur Jésus, puis ensuite de ça pour les chrétiens, puis ensuite de ça pour le monde aussi. Même s'il était persécuté, même s'il a souffert, puis on pense à l'amour qu'il avait pour sa nation aussi. Puis sa nation, pourtant, ils l'ont persécuté, puis ils ont voulu ils l'ont fait mettre en prison, ils voulaient le faire mourir, mais Paul, il avait un amour pour sa nation, puis il était prêt même, c'est difficile un peu à comprendre quand il dit qu'il était même prêt à être anathème pour qu'eux soient sauvés. C'est quelque chose. Mais c'est l'amour qui l'a poussé à faire tout ce qu'il a fait pour le Seigneur. Puis c'est la même chose, nous autres aussi, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va servir le Seigneur si on a compris son amour, puis qu'on l'aime. On va le voir en avançant un peu aussi. Mais c'est pour ça que le Seigneur, ce qu'il veut de nous, il veut notre amour. Puis notre amour, c'est seulement de répondre à son amour pour nous. Puis il dit dans le verset 1 ici, il dit persévérer dans l'amour. Persévérer, bien, c'est de ne pas se relâcher. C'est de continuer toujours. Il ne faut jamais se relâcher dans notre amour pour le Seigneur, parce que le moment qu'on se relâche dans notre amour pour le Seigneur, ben ça, notre vie commence à décliner. C'est pour ça qu'il pouvait dire à l'église d'Éphèse qu'il y avait bien des activités, qu'il faisait des choses, il avait même jugé le péché, tout ça, mais dis ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'était l'amour d'abord pour le Seigneur, la priorité du Seigneur dans leur vie, dans leur affection, dans leur cœur. Ils avaient abandonné ça, puis ça, c'est le début du déclin. C'est pour ça que le Seigneur leur faisait ce reproche-là à l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse. C'est parce qu'ils commençaient déjà à décliner. Même s'ils étaient zélés, le zèle ne suffit pas. Il faut que ce soit l'amour qui soit le motif derrière toutes les activités qu'on peut faire. Donc, l'amour fraternel, ben, c'est dans la compagnie de nos frères, des nôtres, nos frères, nos sœurs, c'est l'amour fraternel. Il dit persévérer dans l'amour fraternel. Donc, il faut qu'on s'aime les uns les autres. Puis, c'est pas toujours facile, vous savez, on n'était pas dans le monde. Il dit qu'on était haïssables, puis on se haïssait les uns les autres. Mais maintenant, dans le Seigneur, il nous est commandé d'aimer. Puis, quand on parle de commander, quand le Seigneur nous dit, comme un commandement, aimez-vous les uns les autres. Vous savez, souvent dans le monde, on pense que l'amour, c'est un sentiment qui n'est pas contrôlable. On tombe en amour, puis après ça, on tombe en dehors de l'amour. Mais c'est pas vrai. L'amour, c'est, faut pas se laisser fausser. L'amour, c'est quelque chose qui implique la volonté. Ça veut dire que quand on nous est commandé d'aimer, ben, si on n'aime pas, on désobéit. Puis, donc, la volonté est impliquée quand il nous dit d'aimer, ben, il faut aimer. Puis, le Seigneur va nous aider là-dedans. Mais quand on est en compagnie de nos frères, nos sœurs, dans l'amour qu'on a les uns pour les autres, ça fait contraste à ce qu'il y a dans le milieu du monde. Puis on voit au milieu du monde, c'est comme on l'a dit, là, au lieu d'être l'amour, c'est l'égoïsme. C'est l'amour de soi. Puis on sait que les psychologues, puis les psychiatres, ils nous disent toujours qu'il faut apprendre à s'aimer. Ben, ça, c'est pas un problème. On n'a pas de problème à s'aimer. Quelqu'un qui disait, oh, je m'haïs assez, ben, pourquoi tu t'haïs? Ben, c'est parce que j'ai un défaut corporel ou quelque chose. Ben, il dit, si ton pire ennemi aurait ce défaut-là, est-ce que ça te dérangerait? Ben, il dit, non. Ben, comme ça, c'est parce que c'est pas parce que tu t'aimes pas, ça, c'est parce que tu t'aimes que ça te dérange. Puis, le Seigneur nous a dit, jamais homme n'a haï sa propre chair. C'est vrai, on s'aime pas, on s'aime. On n'a pas de problème avec ça. Des fois, c'est le problème, c'est quand on s'aime trop. Il faut aimer les autres. C'est ça qui est important. Il faut apprendre à aimer les autres. Mais si on regarde les chrétiens, les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur Jésus, qui s'aiment, ben, ça fait un contraste avec le monde. C'est ça qui frappe les gens, de voir l'amour qu'on a les uns pour les autres. Le Seigneur, il nous a commandé de ça, puis il veut qu'on soit aussi. Mais le Seigneur, il veut qu'on s'aime. Il dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde va reconnaître qu'on est les disciples du Seigneur. Pourquoi? Ben, c'est lui qui aime. C'est le Seigneur nous a aimés. Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour les impies. Mais vous savez, quand le monde et Satan ont déployé la haine extrême pour Dieu, ça c'est quand le Seigneur Jésus a été mis à la croix, le monde et Satan ont déployé, même le monde religieux, les soldats romains, puis Satan était derrière ça, ils ont déployé la haine extrême. Ils ont dit, on ne veut pas de cet homme pour régner sur nous, crucifie-le, crucifie-le. On l'a mis sur la croix après l'avoir méprisé, après lui avoir mis une couronne d'épines, l'avoir frappé, tant qu'il était, il n'était plus reconnaissable, et on l'a mis sur la croix. Ça, c'était le summum de la haine du monde, de Satan, contre le Seigneur Jésus. Puis, en retour, le Seigneur a déployé le plus grand amour. Lui-même a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Puis, il n'a point ouvert la bouche. Il était comme une brebis muette devant ceux qui le tondent. Même, il a pu dire, quand il était sur la croix, souffrant avec tous ceux qui le méprisaient, l'ignominie, tout ça, le Seigneur a pu dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, vous savez, c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, la haine du monde et de Satan a rencontré l'amour extrême de Dieu. Puis c'est là que quand on se convertit, quand on comprend cet amour-là pour nous, parce qu'on réalise qu'on ne le méritait pas, mais on voit cet amour-là il nous a tant aimés. Comme Paul avait haï le Seigneur Jésus, il a essayé d'éradiquer son nom, mais il a rencontré l'amour du Seigneur Jésus quand le Seigneur lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Puis il dit, qui es-tu, Seigneur? Puis il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais le Seigneur, il l'a rencontré, puis il l'a sauvé sur le chemin de Damas. Puis Paul a été gagné par l'amour de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour nous. Donc, c'est ça que l'amour, quand le monde voit l'amour qui règne au milieu de nous, ben c'est ce qui les attire, c'est ce qui fait qu'on ressemble au Seigneur Jésus. Fait que c'est là qu'on apprend à aimer. C'est une leçon qui n'est pas facile, mais d'aimer comme lui a aimé, c'est le but ultime. C'est ça qu'on doit faire, on doit chercher à aimer, parce que même Paul il dit que par rapport à l'homme qui aime sa femme, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église il s'est livré lui-même pour elle. Donc, c'est un commandement. Mais dans Jean 13, versets 34 et 35, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, ça veut dire que si on n'a pas d'amour les uns pour les autres, ils ne reconnaîtront pas qu'on est les disciples du Seigneur. Mais si on aime comme le Seigneur aime, ils vont dire, hop, ça c'est l'amour du Seigneur Jésus qu'on voit au milieu d'eux. Puis c'est important qu'on pratique cet amour-là. C'est vraiment grand. Cet amour-là devient visible dans nos relations. C'est pour ça que, en tant que chrétien, quand on se réunit, on doit être proche les uns des autres. Vous savez, quand on. Il y avait quelqu'un qui disait, quand tu es réuni, puis là, ils disent, OK, en deux champs, ils disent, OK, tournez-vous, puis dites bonjour, donnez la main à votre voisin. Mais ce n'est pas juste ça qui devrait être. On devrait être assez proche. On n'a pas besoin de se donner la main entre deux cantiques, mais on doit être impliqués les uns envers les autres. On doit se connaître, on doit passer du temps ensemble, on doit aider les autres, on doit voir leurs besoins. Celui qui aime connaît les besoins de ses frères et sœurs. Il va être là quand ils vont être dans le besoin. Puis il va connaître leur joie aussi, connaître leur peine, connaître leur joie. S'il y en a un qui souffre, tous les membres souffrent avec lui. S'il y en a un qui est dans la joie, tous se réjouissent avec lui. Donc, c'est une relation vraiment intime qu'on a dans le Seigneur. Ça, c'est important. Puis quand c'est comme ça, cet amour-là devient visible dans nos relations. L'apôtre Jean, dans ses écrits, il y a pour thème l'amour. Puis lui-même se nommait le disciple que Jésus aimait. Mais on dit, ouais, mais s'il s'appelait le disciple que Jésus aimait, c'est comme si il prenait la prééminence. Non. Qui de nous ne peut pas dire qu'on est les disciples que Jésus aimait? Il nous a tant aimés qu'il s'est donné pour nous sur la croix. C'est qu'on peut tous s'appeler le disciple que Jésus aimait. Il nous a tous aimés d'une façon merveilleuse. Au verset 2 ici, là, il parlait dans le verset 1 de l'amour fraternel, l'amour entre nous autres, mais dans le verset 2, il parle « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » C'est sûr, quand on pense à ça, on peut voir Abraham, quand les trois hommes, avant d'aller détruire Sodome et Gomorre, sont venus chez lui. Ils sont venus, puis Abraham les a reçus. Abraham les a reçus, puis il a préparé la nourriture pour eux autres, mais c'était des anges. Puis un d'eux, ben, c'est l'ange de l'Éternel. C'était le Seigneur lui-même. C'est sûr que quand je lis ce passage-là, moi, je pense toujours à Abraham qui a exercé l'hospitalité envers ces trois hommes-là qui sont passés chez lui. Puis mais on ne sait jamais qui on reçoit hein, quand on exerce l'hospitalité. L'hospitalité, c'est un grand privilège. Puis ce n'est pas juste un privilège. Dans un sens, c'est un privilège dans les deux sens. C'est une bénédiction dans les deux sens. Il y a une grande bénédiction dans l'hospitalité. Il y a une grande bénédiction pour celui qui bénéficie de l'hospitalité. Mais il y a aussi une grande bénédiction pour celui qui offre l'hospitalité. Ça, c'est vraiment merveilleux. Je me souviens, à un moment donné, il y avait un missionnaire, David Long, un missionnaire qui avait été en Afrique, qui était venu à l'assemblée à Dartmouth, puis mon frère Philippe, sa femme, il l'avait invité à manger. Avant qu'il arrive, il avait demandé qu'il puisse venir dîner après l'assemblée, qu'il puisse venir dîner chez eux. Il était avec sa femme. Puis quand il conduisait en s'en allant à la maison, puis là, mon frère se demandait comment est-ce qu'on va faire ces deux personnes âgées, tu sais, comment est-ce qu'on va faire pour les divertir pendant qu'on va être en train de leur préparer le dîner pour les recevoir. Mais il dit, quand ils sont arrivés à la maison, le monsieur Long, il a rassemblé les enfants autour de lui, puis il a commencé à leur conter des histoires sur le champ missionnaire avec des lions. Mais là, il avait leur attention, puis il les a divertis, il a conté des histoires du champ missionnaire pendant que Philippe et sa femme étaient en train de préparer le repas pour manger ensemble. Puis ça l'a frappé, Philippe. Il revenait pas, il pensait jamais que ça allait arriver comme ça, mais c'est arrivé comme ça. Puis c'est vraiment merveilleux. Nous, ma femme, elle aimait inviter. On avait toujours quelqu'un, soit qu'on avait quelqu'un qui venait chez nous le dimanche ou qui on allait à quelque part. Puis nos enfants, ils aimaient ça. Nos enfants, quand on partait, on embarquait dans l'auto après la réunion, ils nous demandaient toujours, est-ce qu'on va manger à quelque part ou est-ce que quelqu'un vient chez nous? Puis après ça, on avait des activités aussi dans l'après-midi quand on. Donc, nos enfants ont grandi avec ça, puis ils ont eu eux aussi, ils aiment inviter. Puis ils sont hospitaliers. Fait qu'on apprend ça, c'est important, on apprend ça dans la famille, puis c'est bien quand même. Mais dans l'hospitalité, on apprend à connaître nos frères, nos sœurs. On apprend à connaître aussi leurs besoins. On apprend à connaître les choses. On devient beaucoup plus intime quand on exerce l'hospitalité. C'est là qu'on se connaît, parce que c'est sûr qu'à la Réunion, on n'a pas le temps de se connaître aussi bien que quand on se visite dans nos foyers. Que ce soit nous qui allions chez d'autres ou que les autres viennent chez nous, on apprend à se connaître d'une façon plus intime. Puis c'est vraiment agréable. C'est vraiment merveilleux. Vous savez, puis les gens voient ça. Les gens, ils voient ça. Ma mère, moi, elle me disait toujours, parce que quand je voyageais, elle me disait, elle dit, ouais, mais toi, tu as des amis partout. Elle voyait ça que quand je voyageais, j'avais des amis partout. Puis c'est vrai, moi, j'ai vraiment bénéficié de l'hospitalité de beaucoup de frères et sœurs. Puis j'ai toujours apprécié ça. Il y a des fois, je m'en allais sur la route, puis il était tard le soir, puis j'appelais quelqu'un, puis je disais, je peux-tu arrêter de coucher? Il disait oui, on va laisser la porte ouverte, puis quand tu arriveras, tu sais où aller te coucher, tu te coucheras, puis on se verra demain matin. J'arrivais là, des fois tard le soir, je rentrais, puis j'allais me coucher, puis le lendemain, on se voyait. C'est merveilleux de pouvoir avoir cette relation-là qu'on peut faire comme ça, puis savoir qu'on est bienvenu chez nos frères et sœurs. C'est vraiment merveilleux. Puis ma mère voyait ces choses-là. Ça lui parlait beaucoup. Il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est ceux-ci qui sauront que vous êtes mes disciples. Parce que des fois, mes parents, ils venaient visiter, puis ils allaient à l'église, catholique, puis personne ne leur parlait. Ils allaient, puis ils n'avaient pas connu personne. Mais nous autres, quand on va quelque part, puis c'est merveilleux, on visite, on connaît des frères, des sœurs là-bas, puis souvent, on va être invité. Mais il faut faire l'appareil. Nous autres, si quelqu'un vient, il y a des visiteurs, il faut faire l'appareil. Je me souviens d'une fois, on était à l'assemblée, puis il y avait un frère que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai vu seulement cette fois-là. Mais il était venu à l'assemblée, puis on l'a invité à dîner. Puis quand on l'a invité à dîner, on a connu son histoire. On ne l'aurait jamais connu autrement. Mais c'était vraiment intéressant. Ce frère-là avait été sauvé à Calgary. Dans l'année qu'on était, nous autres même, à Calgary, lui, il avait été sauvé, mais il était tellement occupé, puis il nous a tout raconté son histoire dans l'après-midi, qu'il était dans une grande assemblée là-bas à Calgary. Il y avait une grande assemblée, je pense qu'il était 5 000 personnes, mais il n'avait pas le temps. Il travaillait toutes les deux, puis quand il parlait du Seigneur à ses parents, à elle, qui demeuraient à Terre-Neuve, il raccrochait le téléphone. Fait qu'ils ont décidé de tout lâcher. Laisser leur job, toutes les deux, puis ils ont déménagé à Terre-Neuve. Puis là, il n'y avait pas de travail là-bas. Mais il était venu à Dartmouth pour essayer de trouver un travail. Mais j'ai jamais oublié ce frère-là. Mais je me dis, si on ne l'avait pas invité, on n'aurait jamais connu son histoire. Puis son histoire était très intéressante. Puis ça, c'est vraiment merveilleux. Puis une fois aussi, il dit, en l'exerçant, il dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans savoir. Une fois, je voyageais vers l'Ontario, mais il y avait une fille elle s'en allait aussi en Ontario, mais il fallait que je trouve un endroit pour qu'elle puisse coucher en montant. Ça fait qu'on est allé, j'appelais Serge Bouchard à Saint-Hyacinthe, ça répondait pas, ça répondait pas. Puis finalement, je suis arrivé là, puis il y avait David et Nadine Cox qui étaient là dans la roulotte dehors. Puis, fait que, eux, ils ont logé, elle s'appelait Ange, Angel, que ça s'appelait. Ça fait que là, c'était drôle parce que le matin, Kelly est arrivée dans la roulotte. Puis quand elle ouvre la porte, elle voit cette fille-là qui est assise à table en train de déjeuner avec David et Nadine. Puis là, j'ai dit, exercer l'hospitalité, c'est parce qu'il y en a qui ont logé des anges, des entertain angels Unaware, sans savoir, ils ont logé des anges avec la porte serrée. Mais c'est vrai, c'est merveilleux l'hospitalité. Puis moi, j'ai toujours trouvé que c'était une grande bénédiction dans les deux sens, soit de l'exercer ou d'en profiter de l'hospitalité. Puis c'est merveilleux, on apprend à se connaître d'une façon merveilleuse. Au verset 3, il dit, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Donc, c'est plus intense, là. On arrive dans un amour encore plus intense, là. Il dit de se souvenir des prisonniers. Comme si ça pourrait nous arriver tout aussi d'être prisonniers. Imaginez-vous, là, on est dans les deux sens encore. Si on aime les prisonniers, qu'on prend soin des autres, bien, ça pourrait nous arriver qu'on soit prisonnier. Quand il dit ici, comme étant vous-même dans un corps, ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même dans un corps. Donc, étant dans un corps, on pourrait subir les mêmes mauvais traitements ou on pourrait être prisonnier nous-mêmes. Puis, mais il dit d'aimer les prisonniers, de penser à eux autres ici. Je pense qu'ici, il est question de ceux qui sont prisonniers à cause de leur foi, hein, parce qu'il parle dans le thème de l'amour fraternel. Mais Paul, il avait été prisonnier. C'était pas un malfaiteur. Il a été prisonnier à cause de l'Évangile. Puis il disait dans 2 Timothée 1,16, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Paul était en prison. Des fois, ça peut être honteux là, d'aller visiter un prisonnier, mais parce que Paul n'était pas bien vu à cause de l'Évangile. Mais il dit, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire. Lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Vous savez, de chercher ici, là, on pense, mais là, il arrive à Rome, puis il appelle son cellulaire, Paul, où est-ce que tu es rendu? C'était pas comme ça dans ce temps-là. Il n'y avait pas de moyen de communication. Il fallait qu'il cherche pour essayer de trouver Paul. Puis, pour ça qu'il dit, avec beaucoup d'empressement, il a cherché à trouver, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Certain que le Seigneur l'a aidé. Quand on cherche comme ça, le Seigneur a pu l'aider pour qu'il puisse trouver Paul dans la prison où il était. Puis là, Paul, il dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Donc, il parle à Timothée. Puis il dit, toi, tu sais combien de services qu'il m'a rendu à Éphèse, Onésiphore. Et puis, Paul, il appréciait ça. Imaginez-vous quand tu es dans la détresse comme ça, c'est quand tu es dans le malheur comme ça, tu es dans la souffrance comme ça, puis il pense à Onésiphore, puis il est encouragé. Il est consolé parce qu'il dit, regarde, il y a quelqu'un qui prend soin de moi, il n'a pas eu honte de mes chaînes, il m'a cherché beaucoup, puis il m'a trouvé. Puis, imaginez-vous la joie que Paul pouvait éprouver là, étant dans son cachot, puis un frère qui arrive là. Ça fait du bien. Hein, quand on est dans une situation comme ça, puis il y a un frère qui nous a cherché, puis qui nous trouve, puis qui arrive, puis il s'en vient nous consoler. Quelle consolation, quel encouragement. C'est merveilleux de pouvoir expérimenter ça. Mais on voit au verset 23 que Timothée aussi a été prisonnier. Regardez-vous dans le verset 23, il dit, sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Donc, c'est le seul endroit qu'on peut voir que Timothée aussi a été en prison. Timothée a suivi Paul. Il était un disciple de Paul, puis il a suivi Paul. Puis ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Timothée a connu aussi la prison. Puis Paul, de voir son enfant dans la foi, dans la prison, il savait exactement son expérience parce que lui-même en avait fait l'expérience. Puis je suis certain qu'il y avait de la compassion. Puis des fois, c'est plus dur de voir ceux qu'on aime dans cette situation-là que nous-mêmes être dans cette situation-là. Donc, il faut se souvenir que ça peut nous arriver, nous autres aussi. Vous savez, on est dans un temps où on ne connaît pas ces persécutions-là, où on doit être mis en prison. Mais ça peut arriver. Ça peut nous arriver. On ne sait pas quand est-ce que ça peut nous arriver, mais avant que le Seigneur vienne nous prendre, on peut connaître ces situations-là. Il y a des frères présentement, des sœurs présentement dans le monde qui doivent subissent ces traitements-là, d'être mis en prison, puis même d'être tués pour leur foi. Ça c'est comme étrange pour nous autres parce qu'on est loin de ça, là. Mais il y en a qui meurent aujourd'hui pour leur foi. Il y en a qui sont emprisonnés, privés de leur famille, emprisonnés parce qu'ils sont à cause de leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça, on ne sait pas quand est-ce que ça peut nous arriver. Surtout qu'on voit maintenant comment le monde devient antagoniste ou devient contre l'Évangile, puis contre le Seigneur. Puis si on s'affiche pour le Seigneur, ben ça peut nous arriver comme lui. Mais si on pense aux prisonniers, aux frères, aux sœurs qui sont dans les prisons, je pense qu'aussi ça peut aller au-delà de cela. Ça peut aller à ceux qui sont des prisonniers. Même si ce n'est pas des chrétiens, mais il y en a qui ont un ministère auprès des prisonniers. Puis ils vont aller les visiter pour leur prêcher l'Évangile. Puis, si quelqu'un est en prison comme ça, de voir quelqu'un qui prend à cœur ou qui a à cœur d'aller les voir, parce que souvent, des prisonniers, vous savez, les gens ne veulent pas nécessairement les voir. Mais si quelqu'un s'approche des autres avec l'amour du Seigneur pour leur témoigner, bien, ça peut avoir un grand effet. Puis, souvent, il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés dans des prisons à entendre le message de l'Évangile. Peut-être qu'ils sortiront jamais de prison. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire vraiment qu'ils vont remplir les sièges dans notre Église, mais vous savez, on ne doit pas aimer les gens par motif d'intérêt. On ne prêche pas l'Évangile à des gens pour remplir des sièges. Moi, je trouve pas que c'est le motif que le Seigneur avait. Le Seigneur recherchait pas un intérêt pour lui-même. Il recherchait l'intérêt des autres. Puis c'est comme de prêcher l'Évangile à des gens qui sont mourants ou qui sont hospitalisés ou dans des foyers. Ils viendront. Ça ne veut pas dire qu'ils vont venir dans nos réunions, mais on doit leur prêcher l'Évangile par amour pour le Seigneur, puis par amour pour eux. On ne doit pas aimer les gens par motif d'intérêt. Au verset 4, il nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ici, on en vient à une relation qui est vraiment profonde. La relation de mariage, c'est une relation qui est vraiment profonde. C'est triste de voir qu'il y a des gens qui voient d'un mauvais œil la relation de mariage. Ce n'est pas une mauvaise relation, c'est une très belle relation. Mais il y a des gens qui ont souffert beaucoup dans cette relation-là parce qu'ils n'ont pas fait attention à la relation. Puis ça, c'est la relation de mariage. C'est pas pour ceux qui sont pas mariés, ben c'est pas mauvais qu'ils ne soient pas mariés, mais c'est que dans une relation de mariage, là, on doit apprendre l'amour inconditionnel. Puis on doit aimer. Puis des fois, c'est plus facile pour la femme que pour l'homme, parce que l'homme, on a tendance à être plus égoïste puis penser à soi. Mais si on apprend vraiment comme le Seigneur à aimer son Église, s'est livré lui-même pour elle. Si on apprend à aimer comme ça, la relation de mariage, ça va être une belle relation. C'est quelque chose de merveilleux. Mais aux yeux du Seigneur, la relation de mariage, c'est une relation qui est très importante. Parce que cette relation-là, elle image ou elle démontre la relation de Christ avec son Église. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention à notre relation de mariage. Parce qu'on démontre au monde qui ne lise pas la Bible comment Christ a aimé son Église. C'est pour ça que le Seigneur, comme il dit, il va juger les débauchés, puis comme il dit, il jugera les débauchés et les adultères. Parce que c'est donner une image faussée de l'amour que le Seigneur Jésus a pour son Église. De ne pas aimer comme lui, là. Quand on ne traite pas la relation de mariage d'une bonne façon, si on la traite d'une façon égoïste, ça va vraiment mettre un blâme. Ça va mettre un blâme sur la relation du Seigneur Jésus avec son Église. Quand il dit que comme Christ a aimé son Église, il s'est livré lui-même pour elle, là, ben, c'est ça qu'on doit représenter. Puis si on ne le représente pas comme il faut, ben, on met un opprobre sur la relation de Christ avec son Église. C'est pour ça que c'est très sérieux. Les péchés immoraux de sexualité sont vraiment, puis ça blesse beaucoup. quand on ne traite pas ces relations-là de la bonne façon, ça va. C'est comme jouer, on parle de jouer avec le feu. Hein. Si on joue avec le feu, on va se brûler. Ben, c'est ça qui arrive, c'est vraiment important. Puis quand c'est fait d'une façon égoïste, ça va engendrer des graves problèmes. Il faut faire attention à ces choses-là. On voit, c'est comme Amnon qui il dit dans 2 Samuel 13 qu'il aimait sa sœur, Tamar. Il l'aimait, mais vraiment, il l'aimait pas. Mais il désirait l'avoir. Mais il l'aimait pas vraiment parce qu'il a manigancé pour pouvoir coucher avec sa sœur. Puis après qu'il a couché avec elle, là, il y avait de l'aversion pour elle. Parce que c'était égoïste, c'était pas. Puis elle lui avait dit, elle dit, regarde, on ne fait pas ces choses-là en Israël. Elle dit, demande au roi ou à leur père, puis je suis sûr qu'il allait lui accorder comme femme. Mais lui, il ne voulait pas une femme pour l'aimer. Il voulait satisfaire ses besoins égoïstes ou ses désirs égoïstes. Puis après, il l'a haï autant qu'il l'aimait, qu'il était attiré vers elle. On ne peut pas dire qu'il l'aimait parce que vraiment, il ne l'aimait pas. Mais vous savez, quand on est blessé dans cette relation-là, c'est parce qu'on se met vraiment dans la relation de mariage, on se met vraiment à découvert pour aimer l'autre. Puis moi, c'était un problème que j'avais avant d'être sauvé. Je ne voulais pas me mettre à découvert au cas où. T'sais, me garder une réserve. Mais on ne peut pas garder une réserve dans une relation de mariage. Il faut vraiment se livrer entièrement. Puis quand on se livre entièrement dans une relation de mariage, on se met à découvert. Parce que la blessure, elle va être plus grande, plus l'intimité va être profonde. C'est quand on est blessé. Puis le Seigneur Jésus a connu ça, vous savez. Il a offert son amour à Judas. Puis Judas l'a livré, il l'a trahi avec un baiser. Puis ça, c'était vraiment quelque chose. Et celui qui était mon confident a levé le talon contre moi. Et celui qui mangeait mon pain. Fait que le Seigneur lui avait offert une grande intimité, un grand amour. Puis Judas, il a méprisé. Puis il a blessé le Seigneur, il l'a trahi. C'était quelque chose de grave pour lui. Mais si on va dans Proverbe au chapitre 5, Proverbe au chapitre 5, faut faire attention à la relation. C'est la relation qui nous montre l'amour. C'est vraiment une belle relation de mariage, là. C'est vraiment beau de voir un homme et une femme qui s'aiment, puis qui sont pas égoïstes, mais qui sont vraiment dévoués l'un envers l'autre dans l'amour comme le Seigneur nous a demandé. Mais regardez dans le chapitre 5, le Proverbe 5, versets 15 à 23, il dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Donc, c'est vraiment quand il parle ici, il parle d'intimité. C'est pas pour. L'amour entre un homme et une femme dans le lien de mariage, c'est quelque chose qui est vraiment intime. Puis, c'est pas avec tout, c'est vraiment entre les deux, l'homme et la femme. Puis, c'est quelque chose de précieux qu'il faut traiter avec un grand respect. Puis ça va être merveilleux parce que le jugement de Dieu est sévère pour l'immoralité. Il dit ici, vous savez, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Mais vous savez, le monde se moque de la relation du mariage. Puis il ne faut pas faire ça. Il ne faut jamais faire de jokes sur la relation de mariage, parce que c'est de ne pas honorer le mariage. J'étais au travail, puis vous savez, sur la construction, les gars, ils veulent être tough, hein, ils parlent de leur femme, puis la manière qu'ils parlent de leur femme, là, c'est pas très respectueux parce que c'est des toughs. Puis moi, je leur disais, des fois, on était en train de manger le midi, puis là, ils parlaient. Ils disaient, tu parles-tu comme ça quand tu es à la maison, là, avec ta femme puis tes enfants? Non. Ben, j'ai dit, pourquoi tu fais ça ici? J'ai dit, c'est pas bien. Puis une fois, il y avait un gars Il y avait un jeune homme qui se mariait, puis lui, il arrêtait pas. Il disait, ah, il devrait jamais avoir le droit de se marier avant d'être vieux, puis c'est se mettre la corde au cou. Vous savez, les gens parlent comme ça, là, dans la relation de mariage, se mettre la corde au cou. Puis j'ai dit, je sais pas si toi, tu es marié, là, mais j'ai dit, t'as pas l'air, si tu es marié, t'as pas l'air vraiment heureux dans ta relation de mariage. Ah, ben, il dit, c'est parce qu'on parle comme ça. Ben, j'ai dit, moi, j'aime pas ça que tu parles comme ça. Parce que j'ai dit, moi, je suis marié, puis je suis bien content d'être marié. Je suis bien content, ça me donne tout le motif de travailler, puis la raison de travailler. Puis j'ai dit, je suis content d'arriver chez nous, que j'ai ma femme, puis mes enfants. Ça vraiment me motive dans la vie, puis je suis vraiment content d'être marié. Ah, ben, c'est des farces. Non, j'ai dit, c'est pas des bonnes farces. Parce que, mais c'est drôle, les gens, quand ils parlent comme ça, mais quand tu les mets au pied du mur, là, ils savent plus quoi dire. Mais faut jamais, nous autres, faire des farces sur la relation de mariage. Parce que Dieu, il prend ça très au sérieux. Puis nous autres aussi, il faut prendre ça très au sérieux. On pense à David. Hein, David, le roi David, c'est un homme qui marchait selon Dieu. Puis, mais il nous est dit dans 1 Roi 15:5, je vais juste aller le même moment dans 1 Roi 15:5, que parce que le rapport qui est donné ou l'évaluation de la vie de David, c'est triste dans un sens, parce que il nous dit dans 1 Roi 15 au verset 5, il dit ici, attendez un petit peu, car David avait fait. David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie. Puis là, il y a une tâche, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Donc, c'est là que le Seigneur, il rapporte cette chose-là. Mais c'est triste, vous savez, je suis certain que David a eu beaucoup d'occasions de regretter ces quelques moments de plaisir qu'il a pu avoir dans cette relation-là. Parce qu'il a fait une chose, puis le Seigneur l'a vu. Puis ça dit même que cela déplut à l'Éternel. C'est qu'il faut faire attention. La relation de mariage, là, c'est une relation très intime, très sérieuse, très belle, puis il faut l'honorer. Puis il faut prendre soin, puis il faut être fidèle dans cette relation-là, parce qu'elle représente la relation de Christ avec son Église. Puis une chose est certaine, le Christ, pour son Église, il s'est livré lui-même pour elle. Puis lui, il aime son Église d'une façon parfaite. Puis il en prend soin. Puis imaginez-vous la joie que lui va expérimenter de prendre cette Église-là, puis l'emmener avec lui pour l'éternité. Ben, nous autres aussi, on va avoir une grande joie, mais c'est la joie. Mais c'est à cause de ça qu'il a souffert l'ignominie, à cause de la joie qui était devant lui. Quelle joie, ben, d'avoir un peuple racheté qui serait uni à lui pour l'éternité. Maintenant, on arrive au verset 5 et 6, il dit, là, c'est dans le négatif. Il dit que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Donc, il faut aimer, mais il y a des choses qu'il ne faut pas aimer, comme l'amour de l'argent. C'est quelque chose qui peut vraiment nous détruire. Puis, dans les choses qu'on ne doit pas aimer, bien, il nous dit de ne pas aimer le monde. Jean nous dit ça, de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer la chair. Aujourd'hui, ils nous disent tout, il faut que tu apprennes à t'aimer. Non, il dit de ne pas aimer la chair. Faut pas. C'est vraiment notre besoin, c'est pas de s'aimer. On s'aime, on n'a pas de problème avec ça. Mais c'est de se savoir aimer. C'est ça qui est important. Puis on se sait aimer parce que le Seigneur nous aime. Puis il a donné, Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour les péchés. Mais il ne faut pas aimer l'argent, il ne faut pas aimer le monde, il ne faut pas aimer la chair, il ne faut pas aimer le mal, il ne faut pas aimer le péché. Parce que c'est des choses mauvaises. Il ne faut pas aimer ces choses-là. C'est important. 1 Timothée 6, 10 nous dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Il dit, c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quand on pense à ces choses-là, quand on s'engage dans cette voie-là, il faut penser à la fin. où ça va nous mener. C'est qu'il faut faire bien attention pour ne pas se laisser emporter dans des voies qui vont nous détruire. Mais l'amour de l'argent peut faire ça. Il y en a souvent qui vont dire, l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. L'argent, ça peut être un bon serviteur, parce qu'avec de l'argent, on peut bénir, on peut faire des choses qui vont donner de la joie aux autres, ils vont exprimer notre amour aux autres. Il y a des gens qui sont riches, puis ils ne sont pas amoureux de l'argent. Puis il y a des gens qui sont pauvres, puis sont amoureux de l'argent. Il y a des gens qui ont le problème de l'amour de l'argent, puis ils n'en ont pas, parce qu'ils essayent de l'avoir. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, puis ils sont pas attachés à cet argent-là. Ils l'utilisent pour la gloire de Dieu. Puis ça fait qu'il faut faire attention. Des fois, on dit, oh, c'est des riches, ils ont l'amour de l'argent. Pas nécessairement. Il peut y avoir des riches qui ont l'amour de l'argent, puis il peut y avoir des riches qui s'en servent comme un serviteur pour bénir les autres, puis pour glorifier le Seigneur, puis pour servir le Seigneur, tandis qu'il y en a qui n'ont pas d'argent, puis peuvent être amoureux de l'argent. Mais aussi, il peut y en avoir qui n'en ont pas beaucoup, mais ils peuvent l'utiliser pour bénir. Ça, c'est vraiment important. Le Seigneur a dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Puis Mammon, c'est le dieu de l'argent. Donc, on ne peut pas avoir deux maîtres. Ah non, ça ne marche pas, parce que ces deux maîtres-là ne sont pas en accord. C'est que si on ne peut pas les servir toutes les deux, ou bien on va servir un, puis on va mépriser l'autre, ou bien on va servir l'autre, puis mépriser le premier. Donc, on peut avoir seulement un maître. Puis notre maître, c'est le Seigneur Jésus qui nous dirige. Puis il peut faire en sorte qu'il va faire venir l'argent vers nous pour qu'on l'utilise pour lui-même. Vous savez, le Seigneur, s'il voit on peut être un canal par lequel il peut bénir les autres, ben, il peut nous bénir dans ce sens-là pour nous donner, parce qu'il sait qu'on ne l'utilisera pas égoïstement, on va l'utiliser pour le bien des autres. Ça, c'est important. Mais le remède contre l'amour de l'argent, il nous le donne ici, le remède contre l'amour de l'argent. Il dit, attends un petit peu. Okay. Le remède, il dit que ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Le contentement. Le contentement, c'est le remède parfait contre l'amour de l'argent. Ça veut dire que je suis content de ce que j'ai. Vous savez, il y a des gens qui sont jamais contents. Ils cherchent toujours de plus en plus, puis si on peut, ils n'ont jamais assez d'argent. Mais si on est content de ce qu'on a, si on est content, puis vous savez, le contentement n'est pas nécessairement le fruit attends un petit peu, c'est pas de ce qui arrive autour de nous. Mais le contentement, c'est vraiment quand on se remet au Seigneur. Puis Seigneur, c'est ça que tu veux que j'aille, c'est assez, je suis correct, je suis content avec ça. Seigneur, il nous a fait la promesse qu'il ne nous abandonnerait pas, qu'il nous donnerait ce qu'on a besoin. Si on a la nourriture puis le vêtement, on est correct. S'il en donne plus, merci Seigneur. S'il en donne moins, il va nous donner qu'est-ce qu'on a besoin. C'est vraiment ça le contentement, c'est d'être dépendant entièrement de lui. Peu importe les circonstances, je sais qu'il va prendre soin de moi. Je sais qu'il va être avec moi. Puis il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et il dit, et le Dieu de, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Fait que si on s'inquiète de toutes ces choses-là, on n'a plus nos cœurs et nos pensées sur le Seigneur Jésus. Puis là, on ne sera pas content. Mais si le Seigneur est suffisant pour notre contentement, c'est vraiment, on s'attend aux promesses du Seigneur pour nos besoins. Puis 1 Timothée 6, les versets 6, 8 et 9, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est ça qui l'amour de l'argent, c'est pas un bon amour. On est mieux d'aimer nos frères, on est mieux d'aimer les prisonniers, puis en même temps, puis aimer notre femme ou la femme aimer son mari. Mais on va en venir aussi à aimer les conducteurs, ceux qui nous conduisent dans le Seigneur. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir, puis je vais vous donner la possibilité de reprendre votre micro afin que vous puissiez faire soit des commentaires ou pour faire des commentaires ou pour poser des questions. Puis n'oubliez pas, si des fois vous ne prenez pas votre micro tout de suite, là, des fois après ça, vous ne pouvez pas, faites-moi signe si vous ne pouvez pas prendre votre micro, puis je vais vous redonner la possibilité de le prendre. Fait que je vous donne la parole.
Bonjour, Monsieur Ricard.
Bonjour. A mentionné Gérald que le chapitre 11 d'Hébreux nous parle de la foi. Le chapitre 12 nous parle de l'espérance. Et le chapitre qui était devant nous ce soir, le chapitre 13, nous parle de l'amour. Ben, ça me fait penser que ces trois vertus-là sont présentes dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens, on se souvient, 1 Corinthiens chapitre 13 va définir l'amour. Et qu'est-ce qu'il dit en finissant au 1 Corinthiens 13, verset 13, va dire, maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi c'est la plus grande de ces choses, c'est l'amour? C'est parce que finalement, quand on va être dans la présence du Seigneur, c'est seulement l'amour qui va être là. On n'aura plus besoin de la foi parce qu'on va le voir, le Seigneur.
La
On
foi va
n'aura plus
donner
besoin
place à la vie.
d'espérance. On n'aura plus besoin d'espérance parce qu'on va vivre vraiment les promesses du Seigneur quand on sera dans sa présence. Donc, je pense que c'est ça, c'est pour ça que c'est mentionné. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce que l'amour, ça va être l'éternité.
Je dis que la plus grande des choses, c'est pas de s'aimer soi-même, ça c'est, mais c'est de se savoir aimer. Puis ça, des fois, il y a des gens qui me demandent, ils me demandent, je dis, non, moi, je suis bon rien, mais le Seigneur m'aime.
Aussi, Gérald, dans notre assemblée, on fait
Le coup.
un temps de prière pour les persécutés.
Oui.
Puis, dernièrement, on avait sept pasteurs. On priait pour eux. Ils sont enfermés dans des containers depuis 20 ans.
Oh,
Ils vivent, là. Je ne suis pas tout enfermé, mais ils vivent dans des containers, là. Sans toilettes, sans rien, là. C'est juste des containers, puis on est dans un pays chaud. Fait
wow.
qu'on n'imagine pas ce que les chrétiens persécutés peuvent endurer pour le Seigneur.
Oui, exactement. C'est pour
Ils
ça
n'ont
qu'il
pas de
dit.
nouvelles, là. Les familles n'ont aucune nouvelle d'eux autres, là. Ils ne savent pas où ils sont dans la brousse quelque part.
C'est inimaginable pour nous autres, mais c'est pour ça que je pense que, comme tu dis, Richard, c'est de se mettre dans la peau, comme il dit ici, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi nous-mêmes dans un corps. Il faut s'imaginer qu'est-ce que ça représente. Puis, nous autres, on voit ça inimaginable. Mais c'est vrai, c'est bon de prier pour eux. Ouais. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Peut-être notre frère Lévi, il y a des questions? Je réfléchis.
Ça
Tu réfléchis?
trompe. Je réfléchis dans ce sens que aujourd'hui, les riches aiment l'argent. Les riches ont de l'argent, là, aujourd'hui. Il y en a des pauvres, mais les riches ont de l'argent, mais ils n'en ont jamais assez. Et pour faire de l'argent, ben, ils utilisent le monde. Si à un moment donné, ils comprendraient que tu sais, quand tu en as de l'argent puis quand tu en as trop, elle devrait être utilisée pour ceux qui travaillent, au moins pour les riches. Mais il appauvrit le monde pour s'enrichir. Mais on sait qu'un jour, ça va changer, là. Mais le système est inversé.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que Raymond il a mis dans le chat room, dans le Proverbe 14-31, il dit opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Un bon verset.
J'ai cité le verset parce que je viens juste de terminer une étude sur Proverbes avec un autre groupe. C'est pour ça que ça m'a frappé d'avoir ce sujet-là.
La connexion. Mais oui. Des fois, faut réaliser que si des fois on a de l'argent de plus, on se dit plutôt de penser qu'est-ce que je pourrais m'acheter, on pourrait penser qui je pourrais aider. Parce qu'il y en a des besoins autour de nous. Puis, ouais.
Quand tu as parlé, tu avais marché dans le parc pour rencontrer Denis, j'imagine.
Ouais, Denise, oui.
Bon, alors je pensais à ça. Jésus a fait un long voyage aussi pour
Oh,
venir nous rencontrer.
plus long que oui,
Hein?
encore plus long,
De
ouais.
traverser. T'as dû marcher durant la nuit à un moment donné, toi?
Ben oui, c'était dans la nuit
Oui.
parce que quand j'ai
Alors, le Seigneur a traversé les ténèbres aussi pour
ouais.
venir à notre rencontre.
Ouais. Ouais, il faisait tellement noir que je m'ouvrais les yeux ou je les fermais, ça faisait pas de différence.
D'ailleurs, Gérard, ça a valu la peine.
Ça valait la peine. Oh oui. Vraiment, vraiment. Oui, ça valait la peine.
Mais t'as pas eu peur durant la nuit?
Non.
T'as
Non,
pas eu
même
peur
pas peur.
pour toi?
Non.
Non? Il y
Non.
avait un motif.
Ben, c'est ça.
L'amour bannit la crainte.
Exactement.
L'amour aveugle. L'amour
Non,
aveugle aussi.
mais des fois, il peut y avoir des animaux, il y en a.
des animaux sauvages, tu peux.
Ouais, mais il ne me voyait pas.
Mais le Seigneur l'avait à l'œil quand même dans ce temps-là. Il
Ben
avait
oui,
un
ben
œil
oui.
sur lui.
Ben oui.
Oui,
Ouais,
quand
ouais, ouais.
même.
Mais.
Comme tu disais tantôt, Gérald, que le Seigneur pourvoit nos besoins. Des fois, il nous donne juste le nécessaire, mais des fois, il nous en donne plus. Nous,
Ouais.
quand il nous en donne plus, c'est souvent pour partager avec les autres.
Exactement, exactement, ouais. C'est ça, il faut faire attention qu'on se dit, ah, il en a plus, qu'est-ce que je pourrais m'acheter? Non, qu'est-ce que je pourrais aider? Ouais. Parce que de voir quelqu'un, puis on voit des fois des gens dans le besoin. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont sur le bord de la rue, qui aident l'argent, puis il faut faire attention aussi, c'est ne pas encourager des choses de même, mais le Seigneur dit bien dans sa parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. On ne veut pas encourager ça, mais de voir des gens dans le besoin. Puis souvent, de voir des gens dans le besoin, il faut les aimer assez pour savoir qu'ils sont dans le besoin, parce que ces gens-là ne partageront pas nécessairement leurs besoins. Mais le Seigneur les connaît, puis en s'approchant d'eux autres, on peut découvrir leurs besoins.
Le Seigneur nous met à cœur aussi. Je racontais une anecdote au début de notre vie chrétienne. On était à Sainte-Foy. Il y a une sœur qui est allée faire face à un changement d'huile. Puis elle a pensé à Raymond en disant, lui aussi, il doit avoir à faire son changement d'huile. Fait qu'elle nous avait envoyé un 20 $.
OK.
Ça fait longtemps de ça.
Ouais,
Elle
ça
nous
oui.
a envoyé un 20 $. Fait que Raymond est allé faire le changement d'huile. Puis quand il est revenu avec sa facture, ça avait coûté 20 $ et 25. Pourtant, j'ai dit, ça se peut pas, Raymond, le Seigneur, il pourvoit nos besoins. Si
Ouais.
si on a eu 20 $, c'est parce que c'est supposé coûter 20 $, comment ça que ça coûte 20 et 25? Il me dit, c'est parce que je me suis acheté un sac de rachis dans le garage.
OK.
Mais c'est ça, on avait eu un petit mot de cette sœur-là, puis elle dit, ben, le Seigneur m'a mis à cœur de vous envoyer vous payer un changement
Symbolique,
d'huile. Des fois, le Seigneur nous met à cœur, puis
ouais.
souvent, on met ça de côté, mais
Ouais,
faut écouter cette petite voix-là.
faut être à l'écoute. Ouais. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, on était vraiment dans le besoin, on n'avait absolument rien. Puis il y a un frère qui m'avait donné de l'argent. Puis il m'a dit, il dit, je te donne pas, je te la prête. Mais il dit, rends-les pas à moi, rends-les à quelqu'un que je vais avoir besoin. Parce que lui-même, il y avait quelqu'un qui lui avait fait ça, puis il avait dit, tu le rendras à quelqu'un, quand tu vas voir quelqu'un qui a besoin, tu lui rendras à lui. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que tu peux la rendre plusieurs fois.
Ouais.
Quand tu vois
Ouais.
quelqu'un dans le besoin, tu peux lui rendre, puis le rendre à un autre, puis le rendre. Ça devient. C'est ça l'amour fraternel. C'est qu'on voit les besoins des autres avant de voir les nôtres. C'est important.
Devient pyramidal.
Ouais, ça
Oui,
devient
on ne peut pas faire
pyramidal,
ça,
oui.
là. Mais c'est
Pyramidal dans le
légal.
bon sens.
C'est légal,
Pyramidal,
oui.
oui.
Belle pyramide.
Pyramidal dans le bon sens.
Oui,
OK, c'est que le temps est arrivé, c'est qu'on va terminer par le mot de prière, mais s'il y en a qui veulent continuer de jaser, on peut continuer, mais ceux qui doivent partir pourront partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois. Seigneur, apprends-nous à aimer. Toi qui nous as aimés d'une façon qu'on n'avait jamais connue, Seigneur, d'un amour inconditionnel. Tu nous as aimés quand on n'était pas aimable, notre Dieu. Tu as pris soin de nous, tu as pourvu à nos besoins. Tu nous as donné ce qu'on avait besoin, Seigneur, pour être sauvés de nos péchés, être lavés, puis être dans ta présence pour l'éternité. Seigneur, ton bonheur était de nous rendre heureux. Qu'on puisse apprendre ces choses-là, Seigneur. Comme Paul qui pouvait dire, si je vis, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, aide-nous à répondre à ton amour en t'aimant, toi en premier, en aimant ceux qui sont tes enfants. Puis en aimant aussi ceux qui sont dans le besoin autour de nous, puis même dans le monde pour leur prêcher ton évangile. Seigneur, merci encore pour tous ceux qui sont là ce soir, qui se sont connectés. C'est une vraie bénédiction, Seigneur, d'être ensemble autour de ta parole. On te remercie pour ta bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.